les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Que penser d'une série qui débute sur un spectacle de danse aquatique basé sur des sirènes où l'une des naïades se noie? Les premiers moments de Maximum Bob laissent un peu perplexe quand on est habitué à l'excellence des Sopranos, de Six Feet Under ou de L'Hôpital et ses fantômes. Le côté anodin de la série déstabilise un peu. Elle est drôle, sans prétention. Et pour l'apprécier, Sarah, il faut accepter d'oublier tout ce qu'on nous a dit sur la télévision de prestige.
Effectivement, et comme moi, il faut pas partir du principe que s'il y a un Bob dans la série, c'est que c'est comme Twin Peaks.
Oui, on va éviter justement le rapprochement, je crois, non?
Oui, mais pourtant, moi, c'est ce que j'avais fait, puisque je sortais juste d'un marathon Twin Peaks quand je l'ai vu. Donc, d'instinct, j'ai relié les deux séries, et on verra qu'il y a des choses qui permettent de les relier, mais que ça n'est certainement pas le côté ésotérique glauque. Alors, Maximum Bob est adapté d'un roman de Elmore Leonard. Un des sites que j'ai visité sur les avis des libraires disait que c'est un roman fou, échevelé, avec une virtuosité dans les dialogues et les personnages excellents.
C'est une idée où ça ressemble très très fort à la série?
Non, la série a gardé en tout cas la plupart de ses bonnes critiques et de ses caractéristiques. Alors, la série. On rentre à Deepwater avec Katie Baker. Katie Baker, c'est une avocate qui est pour l'occasion commise d'office pour un client qui a provoqué un accident de la route et un client qui se fait un peu malmener par le juge de l'endroit. Il faut savoir qu'elle est à peine entrée sur le territoire qu'elle est arrêtée par un policier du genre un peu harceleur, tu vois. D'ailleurs, dans la ville, soit dit en passant, personne ne s'en offusque ou ne semble s'en offusquer, et c'est d'ailleurs pas le seul personnage machiste et harceleur de la série.
Donc une petite ville tranquille mais un peu spéciale.
Une ville tranquille mais qui ne fonctionne pas sur les mêmes règles, effectivement. Alors Cathy est peut-être bien le grain de sable dont les habitants avaient besoin, parce qu'en fait, elle refroidit le policier aussi sec et l'enferme dans le coffre de sa voiture avant d'aller donner les clés au supérieur du policier en question. Le policier harceleur n'était qu'un amuse-gueule. Quand Katie Baker rencontre le juge Gibbs, elle se frotte à légèrement plus dérangée. C'est évidemment à la cour qu'ils se croisent pour la première fois, puisque c'est lui le juge qui embête un peu son client. Et il est carrément horrible. Dans la scène de leur première rencontre, il prétend qu'elle ne parle pas bien anglais, alors qu'elle est anglophone, hein, de naissance, et qu'elle ressemble à une cubaine. Ensuite, un peu plus loin, il inspecte les dents du prévenu et déclare que le crime est dans ses gènes. D'ailleurs, les dents, ça me rappelle un peu Ally McBean, non?
Oui, c'est à ça que je pense aussi, le fameux juge Boyle qui voulait absolument voir les dents de tout le monde.
Voilà, mais sauf que le juge Boyle est sympathique, le juge Gibbs n'est pas du tout sympathique. Alors il déclare que, selon lui, le gars est coupable, point, tout le monde peut s'en aller. Donc Cathy lui rappelle quand même qu'il est le juge et qu'il est censé être impartial, et elle termine en prison, donc c'est pour vous dire un peu l'ambiance qui règne dans cette ville. Entre-temps, il lui a évidemment proposé de s'amuser un peu. Donc tu vois, il est dans la lignée de l'officier de police. Alors il faut croire qu'elle est complètement maso parce qu'elle va décider de rester en ville. Là on y reviendra, mais elle fera la rencontre avec la famille Crow, qui est une famille de consanguins, qui a donné naissance à des enfants un peu déboussolés, dont des jumeaux qui n'arrêtent pas de faire des bêtises. Pourtant ils sont grands. Léane, qui est l'épouse du juge, qui était danseuse aquatique dans un spectacle de sirènes. C'est la sirène qui se noie dont tu nous as parlé. Et Vanda Gress, qui est la petite fille noire qui la hante, donc un fantôme. Elle fera aussi plus ample connaissance avec le shérif Gary Hammond, dont on se dit parfois qu'ils auraient fait un beau couple. Maximum Bob est une série et pas du tout un feuilleton, donc les événements qui surviennent dans la vie des personnages ne sont pas développés d'un épisode à l'autre, mais on a bien chaque fois un événement prétexte un épisode, et dans ce cas-ci, c'est poussé jusqu'aux limites, puisqu'on ne reparle pas nécessairement de ce qu'on a parlé dans l'épisode précédent. Le juge, par exemple, tente d'assassiner sa femme dans le premier épisode, après ils sont totalement amoureux et personne ne semble trouver ça bizarre.
Donc un ensemble d'épisodes indépendants qui ne sont reliés que par les personnages et les lieux.
Voilà. Et je vous le dis tout de suite, si vous regardez Maximum Bob, oubliez la logique. La logique narrative, vous oubliez complètement et tout ira bien. Ceci dit, il y a quand même quelques trames récurrentes, par exemple les affaires judiciaires que traitent à la fois Bob comme juge et Katie en tant qu'avocate, les relations amoureuses, principalement celles de Bob et de sa femme Léane, mais aussi l'évolution de la famille Crow, parce qu'elle revient en fait tout le temps, on a toujours un des membres de cette famille qui croise les pas des personnages principaux, de manière généralement complètement loufoque, mais au bout du compte, on a le plaisir de les voir revenir et de suivre un petit peu leur vie. La série est avant tout une série série comique et prétexte pour les scénaristes de laisser leur imagination partir dans tous les coins possibles et imaginables. Par exemple, la CIA, le FBI et la NSA complotent pour remplacer Fidel Castro. Évidemment, ça se passe à Deepwater, ça me paraît logique. Ou c'est un homme qui veut succéder à Léane dans son show de sirène. Toutes ces intrigues bizarres prennent en plus place dans une ville qui est encore plus bizarre, où on trouve des alligators partout, dans les cercueils et dans les jardins principalement, où le cousin Léo vole des voitures pour les faire exploser parce qu'elles sont polluantes. Ben oui, ça paraît logique. Et où les gens sont en chaleur en même temps. Et oui, dans l'épisode 4, toute la ville est en chaleur. Les flics regardent aux fenêtres pour voir les filles passer. Enfin, c'est hallucinant. Cette série a été créée par Barry Sonnenfeld, dont le nom ne vous est certainement pas inconnu, puisque c'est le réalisateur de Men in Black, Les Mystères de l'Ouest, le film, et les films adaptés de la série La Famille Adams. Il est donc producteur exécutif. C'est la première fois qu'il produit une série. Depuis, il a été crédité au générique de The Tick, notamment, et de L'île Fantastique Nouvelle Mouture. Toute l'équipe de Maximum Bob passe sur L'île Fantastique avec Barry Josephson et Alex Ganza. Alex Ganza, d'ailleurs, il avait travaillé sur des séries comme Dawson ou sur plusieurs épisodes de Frontières du Réel ou de La Belle et la Bête. Donc on a une équipe qui n'est pas nécessairement une équipe de série, quoique, et qui va rester ensuite dans la série loufoque, hein, parce que The Tick, ça n'est pas non plus quelque chose de très très sérieux.
Jetons un œil sur les 8 dernières heures dans votre petite ville. Pour commencer, je me fais tripoter par un de vos adjoints, qui pour l'instant est toujours enfermé dans son coffre. Je m'appelle Katie Baker et j'exerce le métier d'avocate. Mon mari vient de me plaquer pour une prothésiste appelée Debbie Lefkowitz, alors moi, monsieur, je ne suis pas d'humeur. Mon client écope de la chaise électrique pour avoir bu de la bière.
Enfermez-la.
Je suis jetée en prison pour avoir refusé un tête-à-tête avec un juge marié à un poisson.
Entrez, je vous en prie.
J'avais cru entendre quelqu'un parler.
Oh, c'est Vanda.
Vanda.
C'est son nom, Vanda Grace. Et je l'aime beaucoup, mais parfois c'est une petite peste.
En fait, elle est morte en 1855.
Vanda Grace est un fantôme ?
Eh bien, j'aimerais penser qu'elle est un peu mon guide spirituel. C'est elle qui m'avait ramenée de l'autre monde.
Et partout où je vais, je tombe sur une espèce de famille qui se balade avec une paire de lunettes noires géantes, des jumeaux plus larges qu'un camion, incapables de marcher et de mâcher du chewing-gum en même temps.
Tout ça parce que mes parents se sont mariés entre cousins, c'est pour ça.
Et vous trouvez que c'est moi qui en fais trop ?
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la première journée de Cathy à Deepwater est plutôt bien remplie.
Oui, elle est plutôt bien remplie, mais où c'est ça, ou elle est complètement disjonctée de nature. Enfin, mais je crois pas qu'elle soit disjonctée de nature.
Je crois que c'est plutôt la ville.
Alors Maximum Bob, c'est le juge qui donne son nom à la série, puisqu'on le surnomme Maximum Bob, parce qu'il donne toujours la peine maximum. Ben oui. Il déclare d'ailleurs qu'il veut pas être populaire, mais qu'il veut rendre justice. Et effectivement, il est plutôt en faveur de mesures impopulaires, comme la peine de mort, ou le fait de pouvoir incarcérer tous les fêlés qui croisent sa route. Et vu son caractère, on peut se dire qu'il doit trouver fêlé un peu tout le monde, sauf lui. Donc c'est un peu inquiétant. Deuxième caractéristique, il considère qu'il est l'incarnation de la loi, et que la loi des États-Unis passe en second. C'est pour ça qu'il se permet, par exemple, de dire que le prévenu est coupable et que, bon, voilà, on peut retourner chez soi. Donc, il donne son avis sur les affaires, ou alors ça ne le dérange absolument pas de juger son ex-femme qu'il déteste et de rendre un verdict assez dur, d'ailleurs. Ça ne le dérange pas non plus d'influencer des témoins quand ça l'arrange, mais lui-même n'est pas la prédune. Lui-même, par exemple, est à plusieurs ex-employés qui disent qu'elles ont été ses maîtresses et qu'il est plutôt harceleur. D'ailleurs, il fait carrément des avances à Katie Baker. Donc, on voit que lui n'est pas la prédune non plus. Pour couronner le tout, il se présente à l'élection pour le poste de gouverneur. Et là, son seul et unique problème, c'est que sa femme, Léane, représente une menace, puisqu'elle est plutôt loin de l'image qu'on peut attendre d'une épouse de gouverneur. Elle croit aux fantômes, c'est une diseuse de bonne aventure. Elle prétend, dans une interview, avoir eu la révélation qu'elle était la mère de son mari, ce qui est un peu limite, et qu'elle est persuadée de devoir sauver son âme. Donc on imagine effectivement qu'elle est un peu encombrante. C'est pour ça d'ailleurs qu'il décide de l'éliminer dans le premier épisode. D'autant que, de temps en temps, elle rencontre des riches qui sont d'accord de financer la campagne de son mari, mais comme elles sont racistes et comme elle est hantée par une petite fille noire, elle les remet à leur place. Donc effectivement, Léane n'est pas tout à fait l'épouse rêvée. Pourtant, leurs relations sont en dents de scie, puisqu'on passe de l'envie de meurtre à l'amour un peu plus normal, voire au parfait amour dans les derniers épisodes. Donc, voyez que c'est quand même un couple qui marche. Le téléspectateur face à Bob Gibbs, donc, est confronté d'abord à un personnage complètement antipathique, sexiste, sectaire, coureur de jupons, il a tous les défauts, au point qu'on se demande ce que Léane peut bien lui trouver. Peu à peu, il devient quand même plus aimable et plus nuancé, donc au fil de la série, on commence à se rendre compte que c'est quand même pas l'homme horrible qu'il semble être. Léane, c'est donc la femme du juge. Elle est la première personne que le téléspectateur rencontre dans le pré-générique. C'est donc elle, la sirène, la danseuse aquatique, qui mange une banane sous l'eau. Malheureusement, un alligator entre dans la piscine et elle se noie, ce qui fait qu'un peu mauvais genre tout de même. Mais en fait, non, elle se noie pas. Elle manque de se noyer parce qu'une petite fille noire, donc elle voit en vision, lui dit que son heure n'est pas venue. Et elle s'en sort donc avec une phobie des piscines, une phobie des alligators, et elle est possédée par Vanda Grace, la petite fille noire. Ce qui est un moindre mal quand elle pense qu'elle aurait dû se noyer. Alors il faut savoir que Bob n'aime pas du tout les intrusions de Vanda dans leur vie, surtout quand elle interfère dans sa campagne, comme je viens de vous le dire, pour remettre à leur place des vieilles rombières, ou qu'elle s'invite dans leur lit, puisque c'est déjà arrivé une fois que, sous le coup de l'émotion, on va dire, Vanda Grace reprenne le dessus. Alors il faut savoir que Léane n'est donc plus une sirène dans un spectacle aquatique.
La reconversion a dû être difficile.
En fait, elle ne se reconvertit pas vraiment, parce que dans les esprits de tout le monde, elle est toujours la sirène vedette de ce show. D'ailleurs, quand il faut la remplacer, c'est à elle qu'on demande des conseils, par exemple. Donc elle reste la star de Deepwater, je vais dire. Mais bon, à côté de ça, elle est devenue diseuse de bonne aventure. Enfin, ça, c'est dans le premier épisode. Ensuite, elle ne semble plus l'être. Mais enfin, bon. Katie Baker atterrit donc au milieu de tout ça, décide de rester à Deepwater parce qu'en fait, au départ, elle provient de Miami, où elle vient d'ailleurs d'avoir une promotion, mais le fait qu'elle frappe la maîtresse de son ex-mari fait que la maîtresse porte plainte et qu'elle perd sa promotion. Donc elle décide de retourner à Deepwater, où elle sera plus utile. Son mari d'ailleurs redébarque à Deepwater quelques épisodes plus tard pour tenter de la séduire, mais Cathy découvrira assez vite qu'il a été déshérité par sa grand-mère parce qu'il divorçait et que donc s'il veut avoir l'argent, il doit avoir la fille. Et donc elle le quittera définitivement. On a parfois l'impression que Cathy n'est pas insensible au charme du shérif, et que le shérif d'ailleurs est un peu jaloux de Kevin, mais les scénaristes n'auront malheureusement pas le temps de faire évoluer cette relation-là. Donc face au juge, c'est une avocate travailleuse, rigoureuse, elle lui oppose la loi et son caractère. Parfois elle le menace et ça marche plutôt bien. Apparemment elle est déboussolée au début dans cette ville, mais elle trouvera assez vite ses marques et prendra goût à la brochette de personnalité qui habite à Deepwater. Voilà les trois personnages principaux, même s'ils sont sympathiques, les autres ne parviennent jamais à avoir autant d'importance. Je pense au shérif, Gary Hammond, je pense à la famille Crow, ou je pense par exemple à Vanda Grace, la petite noire. Alors à noter très vite en passant que le juge est incarné par Beau Bridges, qui a joué notamment dans Jerry Maguire au cinéma. La liste des séries dans lesquelles il est apparu est assez faramineuse, Will and Grace par exemple, Fugitif, Bonanza, Gunsmoke, ce qui fait quand même remonter sa carrière télévisuelle aux années 60, ce qui n'est pas rien. Il a son nom sur le boulevard étoilé de Hollywood. Kirsten Warren joue Léane. Elle était Alex Tabor dans Sauvée par le Gong. Je m'en souviens vaguement, mais vraiment vaguement. À part ça, elle est apparue dans À la Maison Blanche, L'île fantastique nouvelle mouture, Le Jacques, Gorky, un adolescent pas comme les autres, et Magnum. Un autre visage connu, c'est Lise Vasset qui incarne Kathy Baker, puisqu'elle a joué elle aussi dans une brochette de séries assez intéressantes d'Armen Gregg, Dawson, Dream On, Urgence, Murphy Brown, Beverly Hills. Donc c'est un visage assez connu. Après Maximum Bob, elle a rejoint le casting de The Tick en tant que Captain Liberty. Une équipe assez intéressante.
Mon frère m'a beaucoup parlé de vous.
Ah ouais ?
Vous étiez dans Newsweek, c'est ça ? C'est quoi votre surnom ?
Maximum Bob.
C'est exact. Maximum Bob. Et vous faites pousser quoi ? Des tulipes ou je ne sais quoi ?
Orchidées.
Ah oui, c'est ça, c'est exact, des orchidées. Moi, j'adore les oiseaux. Je reviens d'un voyage au Costa Rica avec des amis qui s'y connaissent. Avez-vous déjà vu un quetzal ?
Je peux pas vous dire que oui.
Magnifique plumage sur le mâle. On en a répertorié plus de 225 espèces.
Il y a plus de 30 000 espèces chez les orchidées.
Vraiment ? Oui, mais c'est très fragile.
Non, pas du tout.
Oh, je vous en prie, ce ne sont que des fleurs.
Ce qui fait leur beauté, c'est ce qui paraît délicat et finalement dur comme un ongle. On doit en fait voir les orchidées comme des cactus.
C'est fascinant.
Ouais.
Seulement, rien ne vaut le plaisir d'être dans la jungle avec une bonne paire de jumelles et un bouquin spécialisé.
Oh, est-ce que ça peut être nul ?
Hey, monsieur, j'ai traversé deux rivières, j'ai grimpé 300 mètres à la verticale rien que pour admirer une chouette pygmée très rare.
C'est pas ce qu'est la vie tant qu'on n'a pas élevé soi-même un hybride du semi à la pleine floraison.
C'est ça qui me paraît nul, c'est comme regarder une peinture séchée.
Ça c'est vrai, monsieur, magnifique plumage sur le mâle.
Mais vous vous moquez de moi ?
Oui, et ça me plaît.
Dans ce cas, vous pourriez le regretter, espèce de pecno.
On n'est pas à Miami, pecno quand même. Et si tu veux vendre ta saleté, quel que soit son prix, aux gens des environs, prépare-toi à te faire mordre par une foule de chiens de garde.
L'introduction de ce dossier vous laisse peut-être croire que je trouve cette série insignifiante, puisque je vous ai parlé d'excellence des Sopranos, de côté un peu anodin de la série, etc. C'est vrai qu'elle ne rivalise pas avec toutes ces séries dont on a l'habitude de vous parler dans cette émission.
Mais peut-être justement qu'on ne lui a pas laissé le temps.
Peut-être qu'on ne lui a pas laissé le temps, effectivement. Mais Aussi, je suis pas sûre que les créateurs de Maximum Bob avaient envie de rivaliser avec cette série-là, du moins de l'annoncer comme telle. Ceci dit, c'est pas parce que cette série n'a pas l'air au départ d'être le succès de l'année qu'elle n'est pas intéressante. Et il me semble que moi, justement, l'un des traits de génie de cette série, c'est de faire fi de pas mal de conventions. Alors, une série normalement basée sur une histoire d'amour, Friends, hein, Rachel et Ross, ou un idéal professionnel, Urgence, il n'y a que ça d'ailleurs dans Urgence, ou les deux, par exemple, Ally McBeal. Effectivement, il est bien question de justice dans Maximum Bob, mais il me semble que je vous ai montré que quand les personnages travaillent, ils ne sont pas toujours à l'après d'une. C'est en tout cas pas une image idéale du métier. Je dis bien quand ils travaillent, parce qu'on ne les voit pas nécessairement travailler. Donc la série ne tient pas sur les relations professionnelles. Elle ne tient pas non plus sur les relations amoureuses, parce qu'effectivement, on voit le couple Gibbs au centre de la série, mais on ne peut pas vraiment parler d'une évolution de leur couple. On ne peut pas vraiment dire non plus que la série est centrée vraiment là-dessus, puisque c'est un coup je te déteste, un coup je t'aime, et puis ça dépend des scénarios dont on a besoin. Il y a une attirance entre Katie et entre le shérif, mais les scénaristes n'auront pas le temps de le développer, et en fait ne le développeront qu'au moment où ils dansent le tango ensemble, après plus vraiment. Donc il semble que ça ne tienne pas non plus sur les relations amoureuses. Et ça tient sur quoi? Ça, c'est une bonne question.
Ça a l'air de tenir sur rien.
Oui, ça tient sur presque rien en tout cas. Moi, j'ai l'impression que Maximum Bob pousse au maximum, cas de le dire, la règle de l'invariant dans les séries télé. C'est-à-dire que dans les fictions, il y a toujours des éléments invariants. On ne change pas les personnages, on ne change pas les décors, on ne change pas les scènes récurrentes, on ne change pas non plus certains personnages secondaires, la manière dont on construit les intrigues, mais on change tout le reste. C'est-à-dire on change les histoires, les personnages secondaires, les anecdotes, etc., etc., voire aussi les relations entre les protagonistes. Mais la plupart du temps, on a une intrigue de fond qui tire en espèce de trait d'union entre les épisodes. Pour Maximum Bob, ça n'existe pas du tout. C'est vrai que les personnages sont les mêmes, les décors sont les mêmes, mais tout le reste change jusqu'à parfois les rapports entre les personnages, puisque je vous ai dit que le juge veut tuer sa femme dans un épisode et est totalement amoureux d'elle l'épisode qui suit. Et les événements ne sont jamais étalés sur plusieurs épisodes et ne sont amenés par rien. On ne peut pas vraiment dire qu'on prépare l'avènement de l'arrivée du mari de Katie, par exemple. Finalement, la seule règle que le scénariste semble avoir suivie, c'est de développer l'humour, coûte que coûte, à partir de cet univers complètement cocasse qu'on a déposé au départ, sans convention apparente. En introduction, je vous parlais aussi de Twin Peaks en vous disant que j'avais fait cet amalgame un peu foireux entre le Bob de Twin Peaks et celui de Maximum Bob. C'est vrai que ça ne se ressemble pas vraiment, je pense que vous aurez bien compris quand vous avez écouté la description de la série, mais les deux fictions partent d'un même point de départ, il me semble. On a une petite ville éloignée des grands centres traditionnels, une galerie de personnages farfelus. Souvenez-vous de Nadine et ses tringles à rideaux silencieuses en Twin Peaks, ou les Packard, enfin... On peut dire qu'il y a aussi des personnages déjantés dans Twin Peaks.
Il y a quasiment que ça d'ailleurs.
Oui. Ici, on a les Crow ou Léon qui fait exploser les voitures. On a aussi une légende comme point de départ. D'un côté, c'est Laura Palmer et sa personnalité apparemment toute blanche et innocente. Dans Maximum Bob, c'est Léane en tant que sirène et en tant que célébrité du coin.
Et puis, on a un gimmick intéressant entre les deux séries. Dans l'une, le hibou est important. Dans l'autre, c'est le crocodile.
C'est vrai. Sauf que Maximum Bob en fait une comédie débridée et que Twin Peaks nous fait... le truc qu'on connaît, je n'ai pas de mots, je ne peux pas dire que c'est une série policière. Ou... Puis ces deux fictions ont aussi cette caractéristique d'être post-moderne. Twin Peaks, c'est pour ça que je ne sais pas mettre un mot dessus. Twin Peaks mélange les genres, le policier, le fantastique, le soap opera. Et Maximum Bob dépasse complètement les codes de la comédie jusqu'à aller dans l'extrême, je vais dire. Pourquoi elle s'est-elle arrêtée? Puisque j'ai l'air de dire que c'est une chouette série.
En faute d'audience, probablement.
Faute d'audience, oui, complètement. Parce que quand on la regarde au début, il faut très vite la regarder comme étant presque une parodie de la comédie. Presque le hot shot de la télévision. Il faut savoir aussi qu'elle était programmée dans le créneau horaire de New York Police d'État, ce qui n'était peut-être pas une bonne idée non plus. Mais d'après ce que j'ai pu voir sur Internet, les producteurs n'ont pas non plus souhaité démarcher d'autres chaînes que ABC pour peut-être la diffuser ailleurs. Ils sont tout de suite passés sur l'île fantastique Nouvelle Mouture. Pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être qu'eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils allaient dans une impasse. Alors, elle n'a toujours pas été éditée sur support DVD, donc il va falloir que vous attendiez une rediffusion hypothétique. Mais si jamais ça arrive, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil, notamment quand vous avez mal au crâne suite au Soprano, à Sex and the City ou à Urgence, que sais-je. Et si vous voulez rire sur quelque chose de plus élaboré que Sauvé par le Gong, même si les deux actrices principales ont fait un tour dans cette série. Voilà.
Sarah, merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi.
Et à la prochaine.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.